Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Il avait déjà renoncé à un cinquième mandat. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika annonce qu'il démissionnera avant le 28 avril, avant la fin de son mandat actuel. Pas de quoi calmer la rue qui réclame encore et toujours la fin du système au pouvoir. Nous irons à Alger dans un instant.
Et puis, cellule de crise à Downing Street. À 10 jours d'un éventuel Brexit, Theresa May va tenter aujourd'hui de sortir de l'impasse politique. Hier soir, les députés ont de nouveau rejeté les différents scénarios qui leur étaient proposés.
À la une en France, le grand débat arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale et puis en cette journée mondiale de l'autisme, nous ferons un premier bilan du plan lancé par le gouvernement il y a un an.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, notre sécurité dépend-elle de l'OTAN 70 ans après sa création? Nous poserons la question à Guillaume Lascon-Jarias, historien et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN à Rome.
Comment éviter d'être destitué pour maladie et incapacité à gouverner? Comment gagner du temps pour mieux préparer l'après-Bouteflika? C'est la stratégie que semble déployer la présidence en Algérie alors qu'une nouvelle manifestation est annoncée ce vendredi pour demander la chute du clan au pouvoir. Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier dans un énième communiqué qu'il démissionnera avant la fin de son quatrième mandat prévu le 28 avril prochain. D'ici là, dit encore le président algérien, il prendra des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions durant la période de transition. De nouvelles promesses qui laissent la population de marbre. Le reportage de Kaina Dazir, envoyée spéciale de France Culture à Alger.
Pas de coup de klaxon, pas de drapeau algérien, personne sur la place Maurice Audin ni à la Grande Poste. De lieu emblématique de rassemblement après chaque annonce, dans les rues d'Alger, la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Ça fait ni chaud ni froid.
Pour Malek, c'est un non-événement.
Ça me dit rien, c'est un film, c'est un scénario. Ah ouais. On veut le départ de tout le monde, sans exception. Depuis plus d'un mois, ils sont en train de gagner du temps.
C'est quoi pour vous, à votre avis, la stratégie là?
Ah là, on ne peut pas imaginer, il faut demander à Alfred Hitchcock.
Même si le communiqué émane de la présidence, Samia reste sur ses gardes. Trop de fausses rumeurs ces derniers jours. Le fait qu'il n'y ait pas de date officielle de départ entretient le flou.
Il n'y a pas de manifestation de joie parce que maintenant, on se méfie. Un jour, il démissionne. C'est pour ça qu'on n'est pas encore sûr et certain qu'il va vraiment partir.
Pour Amine, un président fantôme ne peut de toute façon pas démissionner.
Il ne démissionne pas, c'était pareil. Pour nous, le Bouteflika n'existe pas. Il est mort ou il est vivant, on ne sait pas. L'ennemi, c'est le gouvernement.
Des Algérois indifférents.
Cette démission, on s'en fiche.
Et le gouvernement fraîchement nommé n'est pas plus crédible à leurs yeux.
Il y en a, c'est des repris de justice, c'est des pions, on les aura tous, mais de façon pacifique.
La démission d'Abdelaziz Bouteflika laisse les Algériens de marbre. Une nouvelle manifestation est annoncée vendredi.
La démission à venir d'Abdelaziz Bouteflika, on l'entend, pourrait ne pas suffire à calmer les manifestants qui réclament depuis un mois et demi maintenant la fin de tout un système organisé depuis 20 ans autour du Raïs. Sauf que pour l'instant, le régime Bouteflika veut garder la maîtrise de la situation. C'est l'analyse de Mouloud Boumgar, professeur de droit public.
Bien évidemment, rien ne changera puisque, à part la tête, la figure institutionnelle du régime, son visage et le régime lui-même restera le même. La manœuvre aujourd'hui serait la suivante. S'il démissionne aujourd'hui, il enclenche une période de transition assurée par le chef, le président du Conseil de la Nation, qui est évidemment un homme du régime. Et donc, dans tous les cas, ils vont réussir à proroger le quatrième mandat de Bouteflika, du président actuel, sans le président actuel. Et donc, qui gardera l'initiative politique et qui voudra maîtriser la transition vers rien du tout, puisque ce ne sera pas une transition, il n'y aura pas de changement de régime. Ce sera le pouvoir, ce sera le régime actuel. Dans tous les cas, le régime veut garder la maîtrise de la situation et garder la maîtrise de la situation, c'est manœuvrer de manière à créer des situations insolubles qui visent toutes à créer une situation dans laquelle le régime se pose en sauveur et propose des solutions aux problèmes qu'il a lui-même créés.
Mouloud Boumgar, professeur de droit public, il répondait à Thibaut Cavaillès. L'impasse politique au Royaume-Uni, à présent, à 10 jours d'une possible sortie de l'Union européenne. Les députés britanniques ont une nouvelle fois rejeté hier soir les alternatives proposées à l'accord de Brexit négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles. Et c'est John Bercow, le speaker de la Chambre des communes, le président du Parlement, qui l'a annoncé hier soir.
In respect of Mr. Clark's motion C, Customs Union,
En ce qui concerne la motion sur une union douanière permanente avec l'UE, 273 voix pour, 276 contre, donc le non l'emporte. Pas question non plus d'organiser un deuxième référendum sur le Brexit, ni de permettre au Parlement d'annuler le divorce d'avec les 27. La proposition d'un marché commun 2.0 a également été rejetée. Son auteur, le conservateur Nick Bowles, accuse le coup et décide de quitter le camp des Tories au pouvoir.
J'ai fait tout mon possible dans l'espoir de trouver un compromis qui pourrait sortir notre pays de l'Union européenne, tout en préservant notre puissance économique et notre cohésion politique. Je reconnais avoir échoué. J'ai échoué principalement à cause de mon parti, qui refuse tout compromis. Par conséquent, je regrette de l'annoncer, mais je ne peux plus appartenir à ce parti.
Oh, Nick. Nick, ne pars pas, allez.
Le Brexit qui fait vaciller une fois de plus le camp conservateur de Theresa May au Parlement. La Première ministre réunit une cellule de crise aujourd'hui au 10 Downing Street consacrée à la situation au sein des Tories. Réunion suivie ensuite avec une rencontre avec les principaux ministres à 10 jours, je le rappelle, d'un éventuel Brexit. Au Venezuela, la Cour suprême contrôlée par le régime chaviste de Nicolas Maduro a demandé hier la levée de l'immunité parlementaire de Juan Guaido, le chef de l'opposition reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, dont la France. Le Venezuela, toujours plongé dans le chaos politique, dans le noir également, à cause de pannes de courant à répétition. L'eau courante manque cruellement et signe de la fébrilité du pouvoir. Le président Maduro a changé hier soir de ministre de l'énergie. Il a nommé un ingénieur qui a 25 ans d'expérience dans l'industrie électrique. 7h07 sur France Culture, Bernard Tapie est très loin d'en avoir fini avec la justice. Le ministère public a requis hier soir 5 ans de prison ferme contre l'homme d'affaires jugé pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait accordé 400 millions d'euros à Bernard Tapie en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais concernant la revente d'Adidas. 3 ans ferme requis par ailleurs contre l'arbitre Pierre Estoupe, 18 mois ferme à l'encontre de Stéphane Richard, l'actuel patron d'Orange, accusé d'avoir trompé à l'époque la ministre de l'économie Christine Lagarde. On y revient dans le journal de 7h30. Le grand débat arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 4 séances de discussion sans vote, aujourd'hui et demain, autour des 4 grands thèmes définis par Emmanuel Macron pour cette concertation, dont la fiscalité, sujet très attendu par les Français. Et ce sera ce soir à partir de 21h30 dans l'hémicycle. Chaque groupe politique pourra présenter ses propositions. L'exécutif veut ainsi associer les parlementaires au grand débat, mais cela servira-t-il à quelque chose? De nombreux députés en doute, Stéphane Robert.
Pour les députés de la majorité, il n'était pas envisageable que le grand débat ne se déroule pas également à l'Assemblée nationale. Il y a eu des réunions et des discussions un peu partout en France, explique un parlementaire La République En Marche, et on aurait omis d'en organiser là où s'exprime chaque semaine la représentation nationale. Franchement, ce n'est pas sérieux. Et ça va nous permettre, poursuit ce député, de faire remonter ce qu'on a perçu sur le terrain dans nos circonscriptions. Mais du côté de l'opposition, à droite comme à gauche, on s'insurge. Pour la France insoumise, il est assez curieux d'organiser un débat consultatif alors que l'Assemblée nationale a une fonction décisionnelle. Ce grand débat à l'Assemblée, vous voulez que je vous dise, reprend un député Les Républicains ? C'est une pure opération de communication. On arrive en fin de course, tout est déjà bouclé. S'il ne le dit pas encore, le gouvernement sait déjà ce qu'il va proposer et on nous considère encore une fois comme la cinquième roue du carrosse. Alors bien sûr, on va y aller et on va poser nos questions, poursuit-il désabusé, mais ça ne servira à rien. On a organisé un grand débat avec les maires, un grand débat avec les enfants, maintenant avec les députés. Heureusement que les animaux ne parlent pas, gronde-t-il avec âcreté, sinon on en aurait fait un avec les animaux. Emmanuel Macron a promis des mesures concrètes qui seront détaillées dans les semaines à venir. En attendant, conclut le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, on fait durer le plaisir afin d'enjamber les élections européennes.
Fiscalité, démocratie, organisation de l'État et des services publics, mais aussi la transition écologique. Les 4 thèmes du grand débat national se retrouvent donc au menu de l'Assemblée aujourd'hui et demain, alors que le gouvernement lance aujourd'hui un nouvel appel à candidature pour sélectionner une 40aine de territoires qui voudraient signer avec l'État un contrat de transition écologique. Ce dispositif, créé l'an dernier, a pour but d'accompagner des territoires qui ont des difficultés industrielles à mettre en place place des projets concrets dans la mobilité propre, les énergies renouvelables ou encore l'agriculture biologique. Mais l'association Amorce, premier réseau d'information des collectivités en matière de transition énergétique, regrette que ces contrats de transition écologique ne disposent pas d'enveloppes financières dédiées ni de recettes massives issues de la fiscalité carbone. À l'occasion de la journée mondiale de l'autisme aujourd'hui, c'est l'heure du bilan un an après le lancement du quatrième plan sur l'autisme en France. 344 millions d'euros débloqués sur 5 ans avec 5 axes majeurs. Davantage de recherche, plus d'autonomie pour les adultes, une détection plus rapide du trouble, une meilleure scolarisation des enfants autistes, tout comme un meilleur accès à l'emploi. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, promet du concret dès le mois de juin, la fin du reste à charge lors du diagnostic des enfants autistes. Une bonne initiative, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, estime Isabelle Allard, membre de l'association au service des autistes et de la pédagogie. Cette mère de 2 enfants autistes est également médecin spécialisée dans les troubles autistiques.
Ce qui est bien déjà, c'est qu'on parle de troubles neurodéveloppementaux. Donc là, le cadre, il est posé au départ. Il y a des classes en maternelle, des UE, unités d'enseignement en maternelle qui vont être créées. Il va en avoir 50 sur la France. Ça fait 1 pour 2 départements. Donc c'est bien. Mais on est loin de combler le retard. Et sur le terrain, on ne verra pas la différence. Il n'y a pas assez de professionnels suffisamment formés. Il n'y a pas assez de places dans les établissements. En France, c'est très compliqué d'ouvrir des établissements spécialisés, d'ouvrir une classe, alors qu'en Belgique, c'est très simple. Bonjour, est-ce que vous auriez une place? Comment ça, est-ce que j'ai une place? Si j'en ai pas, j'embauche une enseignante et j'ouvre une classe supplémentaire. Pour créer un établissement pour adultes, en France, c'est 5 à 10 ans minimum. Donc en Belgique, il y a des places qui sont occupés par des Français. Si on veut une hospitalisation dans un centre spécialisé pour autisme, il y en a un à la Pitié-Salpêtrière, il y a minimum 1 an d'attente. Donc quand on est avec un jeune qui entraîne des blessures graves, extrêmement compliqué.
Isabelle Allard, membre de l'association au service des autistes et de la pédagogie, également médecin spécialisée dans les troubles autistiques, elle répondait à Maud Calves. C'est une bataille prise très au sérieux par certains élus de la République, la bataille du camembert de Normandie, AOP au lait cru, que le député Modem Richard Ramos a voulu protéger il y a quelques jours de la pasteurisation et des appétits des industriels. La bataille se joue désormais côté Sénat aujourd'hui, et pendant ce temps, les industriels comme Lactalis ripostent. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 2 avril perturbé avec un risque orageux. Au meilleur de la journée, il fera entre 16 et 21 degrés du nord au sud, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutuy. Il est 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, notre sécurité dépend-elle de l'OTAN, 70 ans après sa création.